Chapitre 5. L'auberge. À l'époque de la guerre des pirates rouges, lorsque le prince royal, dit l'usurpateur, se proclama illégitimement souverain des six duchés, il introduisit un système de justice qu'il baptisa « cercle du roi ». Le jugement par les armes n'était pas une pratique inconnue dans le royaume. On affirme que, si deux hommes se battent devant les pierres témoins, les dieux eux-mêmes assistent au combat et donnent la victoire à celui dont la cause est juste. Royal reprit cette idée et la développa. Dans ses arènes, les accusés affrontaient les champions royaux ou les fauves, et ceux qui survivaient étaient jugés innocents des charges qui pesaient contre eux. De nombreux vifiés périrent dans ces cercles. Cependant, ces morts atroces ne représentent qu'une partie du mal qu'ils apportèrent. Car de cette justice sanglante naquit une tolérance du public à la violence et à la barbarie qui se mua rapidement en soif inextinguible. Ces épreuves devinrent des attractions et des divertissements autant que des jugements. Bien qu'un des premiers gestes de Kétriken, quand elle devint souveraine et régente à la place du petit devoir, fut de mettre un terme à ses ordalies et de faire détruire tous les cercles, nul décret royal ne put éteindre les appétits sanguinaires que ces spectacles avaient éveillés. Quand j'ouvris les yeux le lendemain matin, très tôt, je baignais dans un sentiment de bien-être et de sérénité. La brume de l'aube était en train de se dissiper et des gouttes de rosée scintillaient sur ma couverture. Pendant quelque temps, je restais l'esprit libre de toute pensée, à contempler le ciel entre les branches de chêne. J'étais dans un état de conscience tel que le réseau sombre de la ramure sur le fond azur suffisait à me plonger dans le plus complet contentement. Au bout d'un moment, mon esprit insistant pour reconnaître dans l'image que j'avais devant les yeux les branches d'un arbre découpé sur le ciel, je revins à la réalité de ma situation et de ma mission. Je n'avais pas de migraine. J'aurais pu me retourner sur le flanc et dormir encore la plus grande partie de la journée, mais j'étais incapable de savoir si j'avais vraiment sommeil ou si j'avais simplement envie de retrouver l'univers protégé de mes rêves. Pour finir, je fis un effort et me redressai sur mon séant. L'œil de nuit s'était éclipsé, le fou et l'oreiller dormaient encore. Je tisonnais le feu puis ajoutais du bois sur les braises pour le raviver, avant de me rappeler que je n'avais rien à faire cuire. Nous allions devoir nous serrer la ceinture et suivre le prince et son compagnon le ventre vide. Avec de la chance, nous trouverions de quoi manger en chemin. Au bord du ruisseau, je bus, puis me nettoyai le visage à l'eau fraîche. Déjà la chaleur commençait à monter. Le loup apparut alors que je me désaltérais à nouveau. « Tu as trouvé de la viande ? » demandai-je plein d'espoir. « Une nichée de souris. Je ne t'en ai pas gardé. » « Ce n'est pas grave. » Je n'avais pas faim. Pas encore, du moins. Il prit un moment pour s'abreuver, puis il releva le museau. « Où es-tu allé cette nuit ?» Je compris le sens de sa question. Je ne sais pas exactement, mais je me sentais en sécurité. « C'était agréable. Je suis content que tu puisses aller dans un endroit pareil. » Je décelais une note de regret dans sa pensée et je le regardais plus attentivement. L'espace d'un instant, je le vis comme par les yeux d'un étranger. C'était un loup vieillissant, le museau grisonnant, les flancs creusés, et son récent affrontement avec la marguette ralentissait encore ses mouvements. Sans prêter attention à mon inquiétude, il se tourna vers le ruisseau. « Il y a du poisson ?» Mes pensées se tintèrent d'agacement. « Pas l'ombre d'un, marmonnai-je. Pourtant, il devrait y en avoir, avec toute cette végétation et ces essaims de moucherons. » Mais je n'en vois nulle part. » Il haussa mentalement les épaules. C'était la vie. « Réveille les autres. Il faut nous mettre en route. » Il refusait le souci qu'il m'inspirait. Pour lui, c'était un fardeau inutile, une angoisse à laquelle il ne fallait pas s'abandonner. Quand j'arrivai au camp, mes compagnons commençaient à sortir du sommeil. Nous n'échangeâmes que peu de mots. Sire Doré paraissait remis de ses excès, et nul n'évoqua le manque de vivres. S'étendre sur le sujet n'aurait rien changé à l'affaire. C'est donc très rapidement que nous remontâmes en selle et nous remîmes sur la trace en voie d'effacement du prince. Il se dirigeait droit vers le nord. À midi, nous découvrîmes un feu de camp, mais les cendres étaient froides. Tout autour, le sol était couvert d'empreintes, comme si on avait bivouaqué là plusieurs jours. Des marques sur deux troncs d'arbres nous donnèrent la solution du mystère. C'étaient des traces d'attache de chevaux. Des gens s'étaient installés là, et quand le prince, la Marguette et leurs compagnons les avaient rejoints, ils s'étaient tous mis en route, toujours vers le nord. Je discutais avec Laurier du nombre de chevaux du nouveau groupe, et nous nous accordâmes à dire qu'il y en avait quatre. Devoir et son compagnon s'étaient donc adjoints deux acolytes. Nous poursuivîmes notre chemin à une allure plus soutenue, la multiplication des empreintes nous facilitant la tâche. Le ciel se voila, puis des nuages se formèrent. Je les accueillis avec plaisir, car ils atténuaient l'ardeur du soleil, mais Œil de Nuit continua de haleter en trottinant à nos côtés. Je le surveillais avec une inquiétude croissante. Je mourais d'envie d'ouvrir davantage mon lien avec lui pour m'assurer qu'il ne souffrait pas et ne dépassait pas ses limites. Mais je n'osais pas m'y risquer tant que Laurier chevauchait avec nous. Les ombres s'allongeaient et la chaleur commençait à tomber quand nous sortîmes de la forêt et découvrîmes une large route en terre jaunâtre qui croisait notre chemin. Du haut de notre colline, nous la contemplâmes avec inquiétude. Si le prince et ses compagnons avaient décidé de l'emprunter, nous risquions d'avoir toutes les peines du monde à suivre leur piste. Parvenus au bord de la route, nous constatâmes que les traces s'y perdaient. Le loup flaira ostensiblement les alentours, mais sans grand enthousiasme. Dans la poussière épaisse, la piste du prince se mêlait à de vieilles ornières laissées par des charrettes et à des marques de sabots adoucies par le temps. Ni les empreintes, ni les odeurs ne devaient tenir longtemps, et la moindre brise pouvait effacer tout souvenir de leur passage.
« Eh bien, voilà, »
fit Sire Doré. Et il me regarda en haussant les sourcils. Je savais ce qu'il attendait de moi. N'était-ce pas pour cela qu'Imbre m'avait confié cette mission? Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, puis m'ouvris grand à l'art, sans chercher à me protéger. « Où es-tu ? » criai-je dans le flux du monde qui m'emportait. J'eus l'impression de sentir le tiraillement d'une réponse, mais je n'avais aucune certitude qu'il s'agissait du prince. Après mon rêve de la nuit précédente, je savais qu'il existait quelqu'un qui réagissait au contact de mon art, quelqu'un qui n'était pas de voir, et que je sentais tout proche, à toucher. Mais je me ressaisis, détournai mon attention de ce havre de paix qui m'attirait et repartis à la recherche du prince. Toutefois, la Marguette et lui m'échappaient toujours. J'ignore combien de temps je restais assis sur ma noire à me confondre avec le vaste monde. Les minutes, les heures cessent de s'écouler lors d'un tel contact. Il me sembla pouvoir sentir l'impatience du fou. Non, je la sentais bel et bien, par un fil d'art chatoyant, qui me disait qu'il rongeait son frein. Avec un soupir, je rompis à la fois avec l'appel du refuge paisible et avec ma recherche infructueuse du prince. Je n'avais rien de nouveau à rapporter au Seigneur Doré. J'ouvris les yeux. Ils allaient vers le nord. Suivons la route dans cette direction.
« Elle part plutôt vers le nord-est, »
remarqua Sire Doré. Je haussai les épaules. « Dans l'autre sens, elle s'en va vers le sud-ouest, » répondis-je.
« Alors, d'accord, pour le nord-est. »
Il fit avancer Malta et je le suivis avant de me retourner pour voir ce qui retenait Laurier. L'air perplexe, elle nous regardait tour à tour. Enfin, elle se décida à nous emboîter le pas. Je me remémorais alors le récent échange que j'avais eu avec le fou, et je nous traitais d'imbéciles. J'avais oublié de lui donner du Monseigneur. Je n'avais même pas pris le ton qui convient à un valet quand il s'adresse à son maître, et c'était manifestement moi qui avais choisi la direction à suivre. Je jugeais préférable de garder le silence, quitte à me rattraper plus tard par une attitude ostensiblement servile. À cette idée, l'accablement me saisit, et je pris conscience de la nostalgie que j'avais d'une relation et de conversation sans entrave. Nous chevauchâmes tout le reste de la journée, apparemment sous la direction de Sire Doré, alors qu'en réalité, nous nous contentions de suivre la route. Comme la lumière du jour diminuait, je me mis en quête d'un emplacement où bivouaquer. Œil de Nuit dut capter mon idée, car il s'élança en avant et franchit une petite élévation de la route, et quand il disparut derrière le sommet, je compris qu'il nous engageait à l'imiter. « Continuons encore un peu, » proposai-je malgré la nuit qui tombait, et nous fûmes récompensés de nos efforts lorsqu'apparut devant nous une vallée, parsemé des lumières d'un petit village niché dans ses replis, au creux du méandre d'une rivière. Je perçus l'odeur de l'eau courante et celle de la fumée qui montait des cheminées des cuisines. Mon estomac sortit de sa résignation et se mit à gronder bruyamment.
« Je gage qu'il doit se trouver une auberge dans ce hameau, » fit Sire Doré avec enthousiasme, « avec de vrais lits et de quoi nous procurer des provisions pour demain. »
« Nous risquerons-nous à nous renseigner au sujet du prince ?» demanda Laurier. Malgré leur fatigue, nos montures durent sentir qu'elles pouvaient espérer ce soir meilleure pitance qu'une herbe maigre et un mince filet d'eau, car elles accélérèrent le pas en descendant la pente. Œil de Nuit resta invisible, ce qui ne m'étonna pas. En réponse à la question de Laurier, je déclarai « Je mènerai une enquête discrète. » Le loup devait déjà s'en occuper. Si ceux que nous poursuivions étaient passés par le village et y avaient fait halte, la Marguette avait dû laisser des traces de marquage. Guidé par un infaillible instinct, Sire Doré nous conduisit droit à une auberge, édifice somptueux pour une si petite ville, bâtie en pierre noire et dotée, luxe suprême, d'un étage. L'enseigne me glaça les sangs. Elle représentait le prince Pie proprement démembré et la tête tranchée. Ce n'était pas la première fois que je le voyais ainsi dépeint. De fait, c'était la façon la plus courante de le montrer. Cependant, je me sentis envahi par un sombre pressentiment. En revanche, si cette image frappa Sire Doré ou Laurier, ni l'un ni l'autre ne le manifesta. La porte grande ouverte de l'auberge laissait échapper un flot de lumière en même temps qu'un brouhaha de conversation entrecoupé de cris enjoués. Dans l'air flottait une odeur de bonne cuisine, de bière et de fumée. Le volume sonore des rires et des bavardages était impressionnant, mais pas désagréable. Sire Doré mit pied à terre et m'ordonna d'aller confier les chevaux au palefrenier de l'établissement. Laurier le suivit dans la salle bruyante, tandis que je contournais le bâtiment, les montures à la bride, et m'arrêtais dans la pénombre de l'arrière de l'auberge. Quelques instants plus tard, une porte s'ouvrit à la volée, plaquant un long rectangle de lumière sur la poussière de la cour. Le palefrenier apparut, une lanterne à la main, en s'essuyant les lèvres, apparemment dérangé en plein repas. Il s'empara des brides que je tenais et mena les chevaux à l'écurie. Je perçus la présence d'Œil de Nuit plus que je ne le vis dans la profonde obscurité d'un angle du bâtiment. Comme je m'approchais de la porte de service, une ombre se détacha des ténèbres, me frôla et me communiqua ses pensées durant ce bref contact.
« Ils sont passés, ici, sois prudent, je sens une odeur de sang humain dans la rue, devant la maison, et aussi de chiens. D'habitude, il y a des chiens ici, mais pas ce soir. »
Il se fondit dans la nuit avant que j'aie le temps de lui demander davantage de détails. Je pénétrai dans l'auberge, le trouble au cœur et le ventre vide. Le patron m'annonça que mon maître avait déjà retenu sa meilleure chambre et que je devais monter ses bagages. Je retournai aux chevaux à pas lourds. Je reconnaissais que le prétexte était bien trouvé pour me permettre de jeter un coup d'œil aux écuries, mais je me sentais pris d'une fatigue subite que j'avais le plus grand mal à combattre. Manger et dormir. Je n'avais même pas besoin de lit. Je me serais volontiers allongé sur place pour sombrer aussitôt dans le sommeil. Le garçon d'écurie s'occupait encore de remplir le grain des mangeoires de nos montures, qui, peut-être à cause de ma présence, eurent droit à une généreuse portion d'avoine. Je ne repérais rien d'inhabituel dans les stalles. Trois vieux chevaux semblables à tous ceux qu'on réserve ordinairement à la location, une charrette en mauvais état, une vache, dans une étable, qui fournissait sans doute le lait pour le gruau des clients. Je notais avec désapprobation les poules qui nichaient dans les poutres. Leur déjection devait souiller la nourriture et l'eau des chevaux, mais je n'y pouvais pas grand-chose. Seules deux autres montures partageaient l'écurie, ce qui ne faisait pas le compte pour le nombre de ceux que nous poursuivions. Et je ne vis aucun marguet à la tâche dans les boxes vides. « Bah, me dis-je, on ne peut pas toujours avoir de la chance. » Le palefrenier était compétent, mais peu bavard et encore moins curieux. Ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur piquante de la fumée, et je soupçonnais que l'herbe l'avait tant alangui que plus rien ne pouvait susciter son intérêt. Je réunis nos paquetages, et ployant sous la charge, je regagnai l'auberge. Il fallait pour accéder à la meilleure chambre gravir un escalier en bois aux marches usées, et l'ascension m'épuisa plus que je ne m'y attendais. Je frappai à la porte, puis me débrouillai pour l'ouvrir par mes propres moyens. Par
meilleure chambre, il fallait entendre qu'il s'agissait du salon le plus confortable de l'établissement. Sire Doré trônait dans un fauteuil rembourré à la tête d'une table couverte d'éraflures, et Laurier était assise à sa droite. Des chopes étaient posées devant eux, accompagnées d'une carafe ventrue en terre cuite. Je humais un parfum de bière. Je fis l'effort de poser délicatement les sacs près de la porte au lieu de les laisser tomber, et Sire Doré daigna remarquer ma présence.
J'ai commandé un repas, Tom, et demandé qu'on prépare des chambres. Dès que les lits seront faits, on vous montrera où ranger les affaires. En attendant, asseyez-vous, mon ami. Vous avez bien gagné votre journée. Tenez, il y a une chope pour vous.
De la tête, il indiqua une chaise à sa gauche, et je m'y installai. Ma bière était déjà servie, et à ma grande honte, je dois avouer que je la bus cul sec en ne songeant qu'à remplir mon estomac qui criait famine. Ce n'était ni la meilleure ni la pire que je goûtais, mais j'avais rarement autant apprécié une cuvée. Je reposai ma chope vide, et le seigneur Doré me donna d'un signe la permission de la remplir. Alors que je nous resservais tous, on apporta le repas, composé d'une volaille rôtie, d'un grand plat de petits pois au beurre, d'un gâteau de froment à la mélasse et à la crème, de truites sautées, de pain, de beurre et d'une nouvelle carafe de bière. Sire Doré interpella notre serveur avant qu'il s'en aille. Il s'était durement cogné à l'épaule le matin même. Le jeune homme aurait-il la bonté de lui apporter une tranche de viande crue afin d'apaiser la douleur? Laurier servit le seigneur Doré, remplit sa propre assiette, puis me passa les plats. Et nous mangeâmes dans un silence presque complet, occupés à calmer notre faim. En très peu de temps, il ne resta plus de la volaille et des truites qu'une carcasse et des arêtes. Sire Doré sonna les serviteurs pour qu'ils débarrassent, et ils apportèrent en dessert une tarte aux fruits des bois à la crème caillée, accompagnée encore une fois de bière. Ils n'avaient pas oublié la tranche de viande, et dès qu'ils furent sortis, Sire Doré l'enveloppa soigneusement dans sa serviette et me la remit. Je me demandais avec indolence si quelqu'un remarquerait sa disparition. Peu après, je me rendis compte que j'avais trop mangé et bu plus que de raison. J'éprouvais cette sensation de réflexion et d'abrutissement si désagréable au sortir d'une journée de jeûne forcé, et je me sentais peu à peu écrasé de fatigue. Je faisais de mon mieux pour dissimuler mes bâillements derrière ma main et prêter attention à la conversation murmurée que tenaient le fou et Laurier, mais leur voix me paraissait lointaine, comme si un torrent bruyant s'écoulait entre eux et moi. « Il faut que l'un de nous effectue une enquête discrète, » répétait la jeune femme. « Quelques questions au rez-de-chaussée nous indiqueraient peut-être où ils se rendaient, ou bien s'ils sont connus dans la région. Qui sait si leurs repères ne se trouvent pas tout près d'ici ?»«
Tom ?»
fit Sire Doré. « Je me suis déjà renseigné, » répondis-je à mi-voix. « Ils sont passés par ici, mais ils ont déjà repris leur route, ou bien ils se sont installés dans une autre auberge, s'il y en a une autre, dans une si petite bourgade. » Et je me laissai aller contre mon dossier.
« Tom !»
dit Sire Doré d'un ton un peu irrité. Il ajouta à l'intention de Laurier,
« C'est sans doute la fumée. Il ne la supporte pas. Il lui suffit d'en respirer les vapeurs pour avoir l'esprit embrumé. »
J'entr'ouvris les paupières avec difficulté. « Je vous demande pardon. » Ma propre voix me paraissait pâteuse et indistincte.
« Comment savez-vous qu'ils sont passés par ici ?»
demanda Laurier d'un ton agacé. Avait-elle déjà posé cette question? J'étais trop épuisé pour chercher une réponse intelligente. « Je le sais, c'est tout, » fis-je sèchement, puis me tournai vers Sire Doré, comme si la jeune femme avait interrompu mon rapport. Du sang a aussi été répandu dans la rue, devant l'auberge. Nous ferions bien de faire preuve de prudence. Le fou hocha gravement la tête.
« Je crois que le plus sage est de nous coucher tôt et de partir de bonne heure demain matin. »
Et sans laisser le temps à Laurier d'émettre la moindre objection, il sonna de nouveau les domestiques. On lui apprit que les chambres étaient prêtes. La grand-veneuse en avait une petite au bout du couloir, Sire Doré une de plus vaste proportion, avec un lit de camp pour son valet. La servante qui avait répondu à la sonnette tint à se charger elle-même du paquetage de Laurier. Aussi souhaitâmes-nous la bonne nuit à la jeune femme. J'évitais de croiser son regard. Accablé de fatigue, je craignais d'être incapable de tenir mon rôle. À grand-peine, je parvins à prendre en bandoulière une partie de nos bagages et à suivre un serviteur jusque chez le seigneur Doré. Le fou resta au salon pour demander à l'aubergiste de préparer des vivres avant notre départ le lendemain matin.
Notre chambre était située au rez-de-chaussée, à l'arrière de l'établissement. J'y entrais d'un pas vacillant, déposais nos sacs, refermais la porte après que le garçon fut sorti et ouvris grand la fenêtre. Je tirai du coffre à vêtements une chemise de nuit pour cire dorée, l'étendis sur le lit, puis fourrai la viande empaquetée dans mon pourpoint afin de la porter plus tard à œil de nuit. Enfin, je m'assis sur mon lit en attendant l'arrivée de mon maître. On me secouait doucement par l'épaule et je m'éveillais.
« Fitz, ça va ?»
J'émergeais lentement de mon rêve et il me fallut quelques instants pour me rappeler où je me trouvais. Dans mon songe, j'habitais une ville grouillante de monde et illuminée. Il y avait de la musique, d'innombrables torches et lampes. C'était une fête. J'étais, non un domestique, mais... J'ai oublié, dis-je au fou d'un ton somnolent. J'entendis un crissement, puis un bruit sourd. Œil de nuit s'était hissé sur l'appui de fenêtre et avait sauté dans la chambre. Je sentis son museau contre ma joue et je le caressais distraitement. Je tombais de sommeil. Mes oreilles bourdonnaient. Le fou me secoua de nouveau.
« Fitz, ne te rendors pas. Que t'arrive-t-il? C'est la fumée ?»«
Non. Tout est si paisible. Je veux me recoucher. » Le sommeil m'entraînait comme le courant de la marée descendante, et mon seul désir était de me laisser emporter. Œil de nuit me donna encore un coup de museau.
« Fou que tu es, c'est la pierre noire, comme celle de la route des anciens. Tu t'y perds à nouveau, sors d'ici. »
Avec un effort, j'ouvris plus grand les yeux. Je vis l'expression inquiète du fou, puis promenai un regard vague sur les murs de la pièce. Ils étaient en pierre noire veinée d'argent. Et tout à coup, je sus d'où provenait ce matériau. D'un autre bâtiment, beaucoup plus ancien. Les blocs de la cloison intérieure joignaient si bien qu'on ne voyait presque aucune rupture entre eux. Mais le mur extérieur était de construction plus grossière. Non, ce n'était pas tout à fait exact. J'en eus soudain l'intuition. Le bâtiment d'origine existait avant le village, mais c'était une ruine qu'on avait remontée à l'aide de vieilles pierres, qui n'étaient autres que des pierres de mémoire taillées par les anciens. J'ignore ce que pensa le fou en me voyant me lever en chancelant.
« Les pierres de mémoire !»
lui dis-je d'une voix pâteuse, et je me dirigeai vers la fenêtre en me repérant à l'air frais qu'elle laissait entrer. J'entendis un cri stupéfait quand je me jetai par l'ouverture et tombai durement dans la cour. Le loup atterrit plus souplement à côté de moi et disparut aussitôt dans les ombres comme un volet s'ouvrait, et que quelqu'un demandait
« Mais que se passe-t-il donc ? C'est mon imbécile de valet !»
répondit Sire Doré d'un ton exaspéré.
« Il est tellement saoul qu'il est passé par la fenêtre en voulant la fermer. Eh bien, qu'il dorme dehors, cela lui servira de leçon à cette grosse éponge abrutie. »
Allongé dans la poussière, immobile, je sentis les rêves cesser de me tirailler et s'éloigner, et quelques instants plus tard, je pus me relever pour mettre davantage de distance entre les murs et moi. Il me fallait un peu de temps pour m'éclaircir les idées. La terrible fatigue qui m'avait accablé durant toute la soirée s'atténua progressivement. Je flottais dans un océan de soulagement et de bien-être. Couché sur le dos, je contemplais le ciel nocturne avec l'impression d'être capable de m'élever jusqu'à lui. Quelque part, un couple se disputait. Lui semblait misérable, elle restait intransigeante. Me concentrer sur ce qu'il disait ne m'intéressait pas, mais ils se rapprochèrent, et je ne pus m'empêcher de les entendre.
« Il faut que je rentre chez moi. »
Il paraissait très jeune.
« Il faut que je retourne auprès de ma mère. Si je ne l'avais pas quittée, rien ne serait arrivé. Arnaud ne serait pas mort et les autres non plus. »
Elle glissa sa tête sous son bras et la posa sur sa poitrine.
« C'est vrai? Et nous nous serions séparés pour toujours, car on te donnerait à une autre. Est-ce vraiment ce que tu désires ?»
Il s'était encore approché. Par l'entremise du jeune homme, je sentis la douce odeur de sa compagne, sauvage et musquée. Il la tenait serrée contre lui. Le vent se mit à souffler sur mon rêve et en effilocha les franges. Il caressait sa fourrure et ses doigts s'insinuaient dans sa longue chevelure noire.
« Non, ce n'est pas ce que je désire, mais c'est peut-être mon devoir. »« C'est à tes semblables que va ton devoir et à moi. »
Elle referma la main sur son bras, et ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau comme des griffes, dont elle se servit pour le tirer vers elle. « Viens, il est temps de nous relever. Nous devons partir sans tarder. » Il plongea son regard dans ses yeux verts. « Mon amour, je dois faire demi-tour. Je nous serai plus utile à tous là-bas. Je pourrais plaider notre cause, exiger des changements, je pourrais. Nous serions séparés. Pourrais-tu le supporter ? Je trouverai un moyen pour que nous restions ensemble. Non ! » Elle le gifla et sa paume lui râpa la joue. Il y avait eu du coup de griffe dans le geste. « Non, il ne comprendrait pas. Il nous forcerait à nous séparer. Il me tuerait. Et toi aussi, peut-être. Rappelle-toi l'histoire du prince Pi. Son ascendance royale n'a pas suffi à le protéger. La tienne ne te mettrait pas plus à l'abri. » Elle s'interrompit, puis reprit. « Je suis la seule pour qui tu comptes vraiment, et moi seule peux te sauver. Mais je préfère ne pas me montrer complètement à toi, tant que tu n'as pas prouvé que tu es des nôtres. Or, tu renâcles toujours. Aurais-tu honte d'appartenir au lignage ?»« Non, ça jamais. »
« Alors ouvre-toi, sois ce que tu es, car tu le sais. »
Il se tut un long moment. « J'ai un devoir, » murmura-t-il enfin, et je sentis chez lui un regret infini.
« Il faut qu'il se lève !» fit soudain une voix d'homme derrière moi. « Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons gagner du terrain !»
Je me tordis pour voir qui avait parlé, mais ne distinguai personne. Des yeux verts plongèrent dans ceux du garçon. J'aurais pu m'abîmer pour toujours dans ce regard.
« Fais-moi confiance !»
fit-elle d'un ton implorant. Et il ne put qu'obéir.
« Plus tard, tu pourras songer à ton devoir. Pour l'instant, pense à vivre et pense à moi. Lève-toi. »
Le fou prit mon bras et le passa autour de son cou.
« Allons,
debout !» dit-il d'un ton persuasif, en m'aidant à me redresser. Il était vêtu de noir de la tête aux pieds. Il avait dû s'écouler plus de temps que je ne m'en étais rendu compte. Rire, bavardage et lumière s'échappaient toujours de la salle commune de l'auberge. Une fois debout, je me sentis en état de marcher seul. Mais le fou insista pour me tenir le bras et me conduire dans un coin sombre de la cour. Là, je m'adossai au mur en bois brut de l'écurie et repris mes esprits.
« Ça va aller ?»
me demanda le fou.
« Je crois. »
L'étoile d'araignée se dissipait dans mon cerveau, mais celle-là m'était familière. Les petits élancements classiques que j'éprouvais et qui annonçaient une migraine d'art étaient moins agressifs que d'ordinaire. J'inspirais profondément. Oui, ça va aller, mais je crois que je ferais mieux de ne pas dormir dans l'auberge. Elle est bâtie en pierre de mémoire, fou, comme la route noire. C'est le même matériau que dans la carrière.
« Celui dans lequel Vérité a sculpté son dragon. »
Je poussai un long soupir. Ma tête se dégageait rapidement. Cette pierre est pleine de souvenirs. Je m'étonne d'ailleurs de la trouver ici en serre. Je n'imaginais pas que les anciens étaient venus jusque chez nous.
« Bien sûr que si. Réfléchis un peu. Que crois-tu que sont les pierres témoins, sinon un vestige des anciens ?»
Je restai un instant sans voix. Puis la véracité de son assertion m'apparut si évidente que je ne perdis même pas mon temps à en convenir. Certes, mais ces pierres dressées sont des objets isolés. L'auberge ici présente est un édifice des anciens qu'on a rebâti. Je ne m'attendais pas à trouver ça en serre. Le fou se tut. Ma vision s'habituait peu à peu à l'obscurité où nous nous cachions et je vis qu'il mordillait l'ongle de son pouce. Au bout d'un moment, il s'aperçut que je l'observais et il écarta vivement sa main de sa bouche.
« Parfois, je m'absorbe tant dans l'examen d'un petit mystère que j'en oublie la grande énigme à laquelle nous sommes confrontés, »
dit-il, comme s'il avouait une faute.
« Donc, tu te sens bien maintenant ?»«
Ça ira, je pense. Je vais chercher un box vide pour y passer la nuit. Si le palefrenier pose des questions, je lui répondrai que je suis en pénitence. » Je m'apprêtais à joindre le geste à la parole, quand une idée me vint. « Tu vas pouvoir rentrer dans l'auberge ainsi vêtu ?»«
Ce n'est pas parce que j'endosse quelquefois l'habit d'un gentilhomme que j'ai oublié les trucs d'un saltimbanque. »
Il paraissait presque vexé. « Je vais rentrer comme je suis sorti, par la fenêtre. » « Très bien. Je vais peut-être faire un tour en ville, pour m'éclaircir les idées, mais surtout pour voir ce que je peux découvrir. Si tu le peux, débrouille-toi pour te rendre dans la salle commune. Touille la marmite à rumeur et ouvre l'oreille à tout ce qui concerne des étrangers qui seraient passés hier par le village en compagnie d'un Marguet. J'allais lui demander de se renseigner sur le sang répandu dans les rues, mais je me ravisais. Les chances d'un rapport direct avec nous étaient minces.
D'accord, Fitz. Sois prudent.
Inutile de me le rappeler. Je me détournais pour m'en aller, mais il me retint soudain par l'épaule.
Ne pars pas tout de suite. Depuis ce matin, je cherche l'occasion de te parler.
Il me lâcha soudain, croisa les bras sur sa poitrine et prit une inspiration hachée.
Je n'imaginais pas que ce serait aussi dur. J'ai joué bien des rôles dans ma vie, et je pensais que ce serait facile, voire amusant, de tenir celui d'un maître avec son valet, mais ce n'est pas drôle.
Non, c'est désagréable, mais je crois que c'est sage.
Nous avons fait trop de faux pas devant Laurier.
Je haussai les épaules avec fatalisme. C'est comme ça. Elle sait que la reine nous a désignés. Mieux vaut peut-être la laisser dans le brouillard, qu'elle tire ses propres conclusions. Qui sait si elles ne seront pas plus convaincantes que tout ce que nous pourrions inventer. Il inclina la tête en souriant.
D'accord. Cette tactique me plaît. Dans l'immédiat, rassemblons tous les renseignements possibles et prévoyons un départ de bon matin.
Nous nous séparâmes sur ces mots. Il se fondit dans l'obscurité avec autant d'habileté qu'œil de nuit lui-même. Je guettai son passage dans la cour, mais ne vis rien, et ne l'aperçus qu'un bref instant alors qu'il franchissait d'un bond la fenêtre et pénétrait dans la chambre plongée dans les ténèbres. Je n'entendis pas un bruit. Œil de nuit s'appuya contre ma jambe.
« Quelle nouvelle ? » lui demandai-je.
Notre vif était silencieux comme la chaleur de son corps contre moi.
« T'es mauvaise, tais-toi et suis-moi. »
Il m'emmena, non vers le centre de la bourgade, mais vers l'extérieur. Je me demandais où nous allions, mais n'osais pas le contacter. Au contraire, je réfrénais mon vif, même si je limitais mes perceptions en ne partageant pas l'essence du loup. Nous arrivâmes sur une étendue pierreuse près de la rivière, et il me conduisit sur la berge couverte de grands arbres. Là, l'herbe haute et sèche avait été piétinée, et je captai une vague odeur de viande cuite et de cendre froide. Puis j'aperçus la corde qui pendait à une branche, et le feu éteint en dessous, et le lien se fit brusquement dans mon esprit. Je me figeai. La brise qui montait du cours d'eau agitait les cendres, et tout à coup, l'odeur de chair brûlée me donna la nausée. Je plaçai les mains sur les bouts de bois calcinés. Ils étaient froids et détrempés. Le feu avait été éteint avec soin. Je remuai les tisons et sentis sous mes doigts la texture visqueuse et révélatrice de la graisse fondue. On avait travaillé plus que consciencieusement, pendaison, démembrement, crémation et évacuation des restes dans la rivière. J'allais m'installer sur un gros rocher sous les arbres, bien à l'écart du feu. Le loup s'assit à côté de moi. Au bout d'un moment, je me rappelais la viande que j'avais apportée et la lui donnais. Il la dévora sans cérémonie, pendant que je réfléchissais, le menton dans la main. J'avais l'impression que mes veines charriaient de la glace. C'étaient des villageois qui avaient commis cette atrocité, et ils se trouvaient à présent à l'auberge, en train de se remplir la panse, de rire et chanter. La victime était quelqu'un comme moi, peut-être même le fils de ma chair.
Non, l'odeur du sang ne correspond pas, ce n'était pas lui.
Maigre réconfort. Cela signifiait seulement qu'il n'était pas mort aujourd'hui. Les villageois le séquestraient-ils ? L'animation à l'auberge préludait-elle à un autre divertissement sanglant le lendemain ? Je me rendis compte soudain que quelqu'un se déplaçait discrètement dans la nuit et se dirigeait vers nous. Le nouveau venu arrivait du bourg, mais il longeait la route sans marcher dessus. Il apparut entre les arbres qui l'abordaient.
« La chasseuse !»
Laurier sortit de l'ombre des feuillages et s'approcha sans hésiter du feu éteint. Comme moi un peu plus tôt, elle s'accroupit, huma les cendres, puis les remua de la main. Je me redressai en faisant assez de bruit pour lui annoncer ma présence. Elle tressaillit et pivota vers nous d'un bloc. « Ça remonte à quand ?» demandai-je. Laurier reconnut ma voix et laissa échapper un petit soupir de soulagement.
« De cet après-midi, » répondit-elle en murmurant.
« La servante m'en a parlé. Elle s'est même vantée de la participation active de son promis à l'élimination du pie. C'est ainsi qu'ils disent dans cette vallée, les pies. La brise de la rivière soufflait entre nous. Vous êtes donc venu voir ce qu'il restait à voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Je craignais qu'il ne s'agisse de notre prince, mais...
Non.
Œil de Nuit s'appuyait lourdement contre ma jambe, et je décidais de faire part de nos soupçons à Laurier. Mais je pense que c'était un de ses compagnons. Si vous en savez si long, vous devez aussi savoir que les autres se sont échappés. Je l'ignorais, mais à ma grande honte, je m'en réjouis. Les a-t-on poursuivis ? Oui, et ceux qui les ont pris en chasse ne sont pas encore rentrés. Pendant qu'ils se mettaient en route, d'autres sont demeurés au village pour tuer le prisonnier. Il est prévu que les responsables de ceci, d'un geste dédaigneux, elle indiqua la corde et le cercle brûlé au sol, partent à leur tour au matin. Leurs amis ne sont pas encore revenus et l'inquiétude monte dans la population. Cette nuit, ils vont boire pour attiser leur courage et leur colère, et ils s'élanceront à l'aube. Alors, nous ferions bien de partir avant eux et de chevaucher plus vite.
Oui.
Ses yeux se portèrent sur Œil de Nuit, puis revinrent sur moi. Le loup et moi regardâmes les herbes piétinées, la corde qui pendait et le feu éteint. Il me semblait que nous aurions dû faire quelque chose, accomplir un geste. Mais si c'était le cas, je ne vis pas lequel. Nous regagnâmes ensemble l'auberge presque sans un mot. Je notais que la jeune femme portait une tenue sombre et des bottes à semelles souples, et je songeais encore une fois que la reine Kétrikène avait fait preuve de discernement en la choisissant. Je salis la nuit en posant une question dont je redoutais la réponse. La servante vous a-t-elle donné des détails? Vous a-t-elle dit comment et pourquoi les villageois avaient attaqué les vifiers, s'il y avait un jeune garçon et un marguet avec eux? Laurier réfléchit avant de déclarer. Celui qu'ils ont tué n'était pas un inconnu pour eux. C'était un habitant du bourg qu'ils soupçonnaient depuis longtemps de pratiquer la magie des bêtes. Les âneries habituelles, vous savez. Quand les agneaux des autres sont morts de diarrhée, les siens ont survécu. Un jour, quelqu'un l'a mis en colère et tous les poulets de l'homme ont crevé les uns après les autres. Il s'est présenté aujourd'hui au village avec des étrangers. Un homme de grande stature monté sur un cheval de bataille et un autre avec un marguet en croupe. Ceux qui les accompagnaient étaient de la région. Ils avaient grandi dans les fermes non loin d'ici. Ils se sont arrêtés à l'auberge, dont le fils du propriétaire élève des chiens pour traquer le lapin. Or, ils venaient justement de rentrer de la chasse, et ces bêtes étaient encore surexcitées. À la vue du marguet, elles sont devenues enragées, et elles se sont mises à sauter autour du cheval en essayant de mordre l'animal. L'homme au marguet, notre prince, très probablement, a tiré l'épée pour défendre son compagnon, et un de ses moulinets a tranché l'oreille d'un chien. Mais il a fait bien pire. Il a ouvert grand la bouche, et il s'est mis à feuler comme un chat. À la clameur qu'ont poussé les gens, d'autres hommes sont sortis de l'auberge, quelqu'un a braillé « Des princes pis !» Un autre a crié qu'on apporte une corde et une torche. Le cavalier au cheval de bataille a éclaté de rire et a fait ruer sa monture pour écarter les assaillants, chiens et humains. Un coup de sabot a jeté un homme à terre. Les gens ont réagi en lançant des pierres et des insultes, ce qui a encore attiré du monde hors de la taverne. Les princes pis ont ouvert une brèche dans la foule et ont tenté de s'enfuir, mais un caillou a frappé l'un d'eux à la tempe et il est tombé de sa selle. La populace s'est précipitée sur lui et il a hurlé à ses compagnons de se sauver. À entendre le récit de la servante, ils se sont carapatés comme des lâches. Mais, à mon avis, celui qui s'est fait prendre s'est sacrifié pour leur laisser le temps de s'échapper. Il a payé la vie du prince de la sienne. Apparemment, oui. Je me tus un moment pour passer en revue les faits dont je disposais. Ce que nous poursuivions n'avait pas nié leur nature, et aucun d'entre eux n'avait tenté de calmer la foule. Ils préféraient la confrontation à la diplomatie, et c'était un élément dont il faudrait tenir compte dans l'avenir. En outre, un de leurs compagnons avait donné sa vie pour les autres, qui avaient accepté son sacrifice comme nécessaire et normal. Cela indiquait non seulement qu'ils accordaient une grande valeur au prince, mais aussi qu'ils étaient profondément dévoués à une cause organisée. De voir s'étaient-ils complètement ralliés à leur camp? Quel rôle ces principes lui réservaient-ils et s'y prêtaient-ils de bonne grâce? Lui avait-il paru juste qu'un homme meure pour lui? Quand il s'était enfui du village, savait-il qu'une mort dans d'atroces souffrances attendait celui qui lui avait sauvé la vie? J'aurais donné cher pour l'apprendre. Mais nul n'a reconnu le prince en devoir. Laurier secoua la tête. La nuit s'épaississait et je sentis le mouvement plus que je ne le vis. Donc, si ceux qui les ont pris en chasse les rattrapent, ils n'hésiteront pas à le tuer. Et même s'ils savaient qui il est, cela ne les retiendrait pas. La haine du lignage est profondément ancrée par ici. Ces gens considéreraient qu'ils épurent la lignée royale, non qu'ils la détruisent. Je notais dans un petit coin de mon esprit qu'elle employait le terme « lignage » à présent. Il ne me semblait pas l'avoir entendu l'utiliser jusque-là. Dans ces conditions, je pense que chaque minute est d'autant plus précieuse. Nous devons partir dès maintenant. À cette idée, je me sentis endolori de la tête aux pieds. Je n'avais plus le ressort de la jeunesse. Au cours des 15 dernières années, je m'étais habitué à manger à heure fixe et à dormir toutes les nuits. J'étais là, et mon estomac se nouait de peur à la pensée de ce que nous allions devoir faire quand nous rattraperions le prince. Quant au loup, il avait franchi les limites de l'épuisement, et je savais qu'il ne tenait plus debout que par pure volonté. Bientôt, son organisme exigerait de se reposer, quelles que soient les circonstances. Il avait besoin de nourriture et de temps pour guérir, pas d'une nouvelle marche forcée en pleine nuit. « Je tiendrai, sinon, laisse-moi en chemin, continue et fais ce que tu dois faire. » Son fatalisme me fit monter le rouge aux joues. Le sacrifice que je lui demandais ressemblait trop à celui qu'un jeune homme avait fait dans la journée pour un prince. La vérité sans fard était qu'une fois encore, je jetais toutes nos forces dans la protection d'un roi et la défense d'une cause, et le loup me faisait don des jours de son existence pour une loyauté qu'il ne comprenait qu'en termes d'amour pour moi. Rolf le Noir avait raison. Je n'avais pas le droit de me servir de lui ainsi. Je me fis une promesse puérile. Quand tout serait fini, je ferais en sorte de compenser ce que j'aurais exigé de lui. Nous irions là où il aurait envie de se rendre, et nous ferions ce qu'il aurait envie de faire. Notre maison et un feu dans la cheminée, ça me suffirait. C'est à toi. Je sais. Nous regagnâmes l'auberge par un chemin détourné, en évitant les routes trop fréquentées. Dans l'obscurité de la cour, Laurier glissa à mon oreille. « Je vais remonter discrètement dans ma chambre préparer mes affaires. Réveillez Sire Doré et prévenez-le qu'il nous faut partir. » Et elle disparut dans les ombres près de la porte de service. Pour ma part, je passai par l'entrée de l'établissement et traversai rapidement la salle commune avec la mine renfrognée d'un domestique puni. La nuit s'avançait et une expression songeuse s'affichait sur les visages des fêtards enfin calmés qui ne me remarquèrent même pas. Je pris le couloir qui menait à ma chambre et arrivé à la porte, j'entendis des éclats de voix qui venaient de l'intérieur. Sire Doré se laissait aller à une colère aristocratique.
Des punaises, monsieur! Une colonie entière, j'ai une peau des plus délicates. Il n'est pas question que je loge dans un établissement où prospère pareille vermine.
Notre aubergiste, sans doute en chemise et en bonnet de nuit, une chandelle à la main, dit d'un ton à la fois suppliant et horrifié.
Je vous en prie, Sire Doré, j'ai d'autres chambres, si vous voulez. Non, je ne passerai pas la nuit ici. Préparez immédiatement ma note.
Je frappai, et à mon apparition, le Seigneur Doré transféra son exaspération sur moi.
Ah! Vous voici enfin, sinistre vaurien! Vous faisiez sans doute la noce pendant que j'étais obligé d'empacter mes propres affaires et les vôtres, par-dessus le marché. Eh bien, rendez-vous donc utile pour une fois. Courez chez la grand-veneuse Laurier pour l'avertir que nous vidons les lieux. Ensuite, réveillez le garçon d'écurie et dites-lui d'apprêter nos chevaux. Je ne tiens pas à rester toute la nuit dans une auberge infestée de vermine.
Je me hâtai d'obéir, pendant que le propriétaire vantait désespérément la bonne tenue et la propreté de son établissement, et dans un délai étonnamment bref, nous nous retrouvâmes sur la route. Incapable de tirer le palefrenier de son sommeil, j'avais scellé moi-même nos montures. Le tenancier avait suivi le Seigneur Doré jusque dans la cour et tentait de le retenir, en arguant qu'il ne trouverait pas d'autre auberge dans le village. Mais mon maître, inflexible, était monté sur Malta et sans un mot l'avait fait avancer. Laurier et moi l'avions suivi. Pendant quelque temps, nous allâmes au pas. La lune était levée, Mais les toits serrés nous cachaient son éclat, et quand, de temps en temps, la lumière d'une lampe filtrait par des volets mal joints, elle créait des ombres sur notre chemin plus qu'elle ne l'éclairait. Enfin, Sire Doré dit à mi-voix, « J'ai entendu les conversations de la salle commune, et j'ai jugé nécessaire de repartir sans tarder. Ils se sont enfuis par la route. En voyageant de nuit, nous courons le risque de perdre leur piste, » fis-je remarquer.
« Je sais, mais en attendant le matin, nous courions le risque de ne découvrir que des cadavres. En outre, aucun d'entre nous n'aurait trouvé le sommeil, et ainsi nous prenons de l'avance sur les villageois qui lanceront la battue demain. »
Œil de nuit nous rejoignit sans bruit. Je tendis mon esprit vers lui, et lorsque le contact se fit, la nuit me parut plus claire. La poussière soulevée par nos chevaux le fit éternuer, et il accéléra le pas pour passer devant nous. Lié à moi par le vif, il ne put me dissimuler l'effort que cela lui coûta. Je fis la grimace, mais respectai sa décision, et je talonnai doucement ma noire pour soutenir son allure.
Nos fontes me paraissent plus rebondies qu'à notre arrivée à l'auberge, dis-je, comme ma jument parvenait à la hauteur de Malta.
Sire Doré haussa les épaules d'un air dégagé.
J'ai emporté des couvertures, des bougies et tout ce qui pouvait nous être utile. J'ai fait une descente dans la cuisine quand j'ai compris que nous allions devoir nous remettre rapidement en chemin. Il y a du pain dans ce sac et aussi des pommes. Je n'ai pas pu prendre davantage, sinon ça se serait vu. Attention de ne pas écraser les miches.
On jurerait que vous avez déjà vécu ce genre de situation tous les deux. Sire Doré. Laurier s'était exprimé d'un ton caustique, et le point d'interrogation qui transparaissait en filigrane dans sa façon de prononcer le titre du fou suffit à nous ramener au sens des réalités. Comme nous ne répondions pas, elle ajouta « Il ne me paraît pas très juste que je doive partager les risques de cette entreprise en restant dans le brouillard à votre sujet. »
Sire Doré prit sa plus belle voix d'aristocrate.
« Vous avez raison, grand veneuse, ce n'est pas juste. Et pourtant, il doit en demeurer ainsi quelque temps encore, car, si je ne me trompe, il faut à présent nous hâter. Notre prince a quitté le village au galop, et nous allons l'imiter. »
Et joignant le geste à la parole, il talonna Malta qui s'élança joyeusement, défiant ma noire de la dépasser. Un instant après, Laurier remontait à ses côtés.
« Ah, plus tard, mon frère !»
Je sentis Œil de Nuit se couper de moi, mentalement et physiquement. Il se savait incapable de soutenir le train des chevaux. Il nous suivrait à sa propre allure et par son propre chemin. Cette séparation me déchira le cœur, même si elle était de son choix et que cette attitude était la plus avisée. Dépouillé de lui, privé de sa vision nocturne, je laissai ma noire aller à son gré, de front avec mes compagnons, entre les maisons pelotonnées les unes contre les autres. Nous sortîmes bientôt du village et le ruban de la route s'étendit devant nous au clair de la lune. Malta prit le galop et les deux autres montures accélérèrent brusquement pour rester à sa hauteur. Nous passâmes devant des fermes et des champs, certains déjà moissonnés, d'autres pas encore. Je m'efforçai d'ouvrir l'œil au cas où je repérerais des empreintes de chevaux quittant la route en pleine course, mais je ne vis rien. Nous laissâmes nos montures courir jusqu'à ce qu'elles décident de ralentir pour souffler un peu. Puis, dès que Malta tira sur son mort, Sire Doré lâcha sa bride et nous repartîmes au grand galop. Le fou et sa jument étaient plus complices que je ne m'en étais rendu compte, et elle tirait son assurance effrontée de la confiance qu'il avait en elle. Nous chevauchâmes tout le restant de la nuit à la cadence qu'imposa Sire Doré. Comme l'aube grisaillait le ciel, Laurier fit écho à mes pensées en déclarant « Au moins, nous disposons d'une bonne avance sur ceux qui devaient partir ce matin voir comment se débrouillaient leurs camarades à la chasse au prince Pi. Et nous avons aussi la tête plus claire. » Elle tut la crainte que nous partagions tous, celle d'avoir perdu la trace du prince dans notre hâte à le suivre. Comme la lune s'effaçait derrière la clarté grandissante du jour, nous poursuivîmes notre route. Il faut parfois s'en remettre à la chance, ou bien, comme le fou, croire au destin.